Bonsoir, bonsoir à vous fidèlement présents au Centre Sèvres, bonsoir à nos auditeurs de différentes villes en région, bonsoir aux auditeurs de RCF qui retransmet ce mardi d'éthique publique, un mardi d'éthique publique qui est consacré à l'exhortation apostolique à Amoris Laetitia, 2 ans après Amoris Laetitia, où en est-on? L'exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, a été publiée au printemps 2016 par le pape François, après 2 synodes consacrés à la famille et une large consultation sur ce sujet auprès des conférences épiscopales du monde entier. Depuis lors, ce texte n'a cessé de susciter aussi bien des doutes que des impatiences. D'un côté, certains milieux catholiques conservateurs, y compris quelques cardinaux, se sont inquiétés d'une mise en question de la morale conjugale traditionnelle de l'Église. De l'autre, l'attention portée aux familles en situation de fragilité a été accueillie avec faveur par ces familles, de plus en plus nombreuses, qui attendent une évolution en profondeur de la pastorale familiale. Le 5 avril dernier, le quotidien La Croix titrait « 2 ans après, Amoris Laetitia avance à petits pas ». En France, certains diocèses, mais pas tous, ont commencé à s'organiser pour renouveler la pastorale du mariage et mettre en œuvre l'accompagnement des personnes en situation familiale complexe. Plusieurs de ces diocèses ont publié des directives pour la mise en place d'un processus de discernement et d'accompagnement. 2 ans après, donc, comment comprendre et dépasser ces résistances ou ces difficultés? Comment mettre en place une pastorale familiale à la fois respectueuse de la doctrine catholique et de l'attention à l'histoire singulière des personnes, en particulier celles qui vivent les situations de fragilité évoquées par l'exhortation apostolique? Ces questions seront au cœur du mardi d'éthique publique de ce soir, intitulé « 2 ans après Amoris Laetitia, où en est-on ?» Pour nous aider à nourrir notre réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Bricou, professeure de théologie sacramentaire à l'Institut catholique de Paris et directrice adjointe de l'Institut supérieur de liturgie. Madame Orane de Motor est directrice du pôle famille au sein du service famille et société de la Conférence des évêques de France. Et le père Alain Thomasset, jésuite, est professeur de théologie morale au Centre Sèvres et doyen de la faculté de théologie. Ces 3 intervenants ont contribué à une publication commentée de l'exhortation apostolique post-synodale « La joie de l'amour » qui a été publiée aux éditions Lessus. Vous en trouverez des présentations à la sortie. Ça, c'était en 2016. Et l'an passé, le père Thomasset a publié avec un théologien dominicain, Jean-Miguel Garrigue, « Une morale souple, mais non sans boussole, répondre aux doutes des 4 cardinaux à propos d'Amoris Laetitia ». La parole, pour ouvrir ces interventions et le débat qui suivra, est d'abord au père Alain Thomasset.
Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais, pour faire bilan de cette réception d'Amoris Laetitia 2 ans après, insister sur 3 aspects qui sont autant de dynamiques auxquelles nous invite l'exhortation et qui me semblent déjà mises en route. D'abord, un processus ecclésiologique. Ensuite, une réflexion dans le domaine moral et sacramentaire. Enfin, une inflexion pastorale. Dans un premier domaine, celui de l'ecclésiologie, c'est-à-dire de la vision de l'Église, il faut, je crois, remarquer qu'Amoris Laetitia est le fruit d'un discernement ecclésial de plus de 3 ans qui a concerné tous les acteurs de la vie de l'Église, les pasteurs, les théologiens et le peuple de Dieu, lui-même consulté par 2 questionnaires préalables. Par sa forme et par son contenu, par son processus même, Amoris Laetitia nous invite à poursuivre cette dynamique d'une église synodale, c'est-à-dire une église en chemin et en débat ensemble. Et notamment, elle nous invite à le faire au niveau des diocèses pour trouver les chemins adaptés à la mise en place d'une pastorale de discernement et d'accompagnement des situations familiales dans leur diversité et leur fragilité. Alors on sait que cette perspective n'est pas facile parce qu'elle est exigeante, mais le processus est déjà en route, comme le montrent les pistes pastorales édictées par plusieurs diocèses, les journées de formation, Les réflexions des groupes divers montrent qu'en bien des endroits en France et dans le monde, cette dynamique est en route. En continuité avec cette Église en pèlerinage, l'exhortation nous appelle aussi à une posture missionnaire pour aller chercher aux périphéries les brebis perdues, celles qui se sont éloignées de l'Église ou qui seraient tentées de le faire face à une pastorale familiale perçue comme rigide ou figée sur un idéal trop abstrait. Comme dit le pape, la miséricorde est le centre de la révélation et Jésus veut être le berger des 100 brebis, pas seulement des 99 qui sont restés dans l'enclos, quoique 99 soit peut-être un chiffre excessif. Comme dit le pape, la miséricorde est le centre de la révélation. Et le pape récuse une église bâtie sur le modèle de la sphère, où tous les points sont équidistants du centre. Il préfère parler d'une église polyédrique, c'est-à-dire qui prend en compte et respecte les différences, y compris dans les fragilités vécues. L'église des disciples missionnaires est une église qui veut rassembler des multitudes et non pas rester centrée sur le petit reste des élus. Et une telle posture missionnaire suppose bien sûr l'accueil, l'accompagnement et le discernement des situations dans leur diversité. Il s'agit de discerner les situations pastorales différentes pour mieux les accompagner sur un chemin de vie personnel et mieux les intégrer à la vie de l'Église. Dans une Église sphère, il n'y a rien à discerner. Il suffit simplement d'enseigner une loi commune, celle de la doctrine catholique par exemple, du mariage, et de donner quelques conseils éventuels pour son application. Par contre, dans une figure polyédrique, comme le rappelle le père Christophe Théobald, on suppose que la volonté gracieuse de Dieu sur telle personne et dans telle situation ne se réduit jamais à une simple conformité aux lois morales, mais est infiniment concrète et relève à ce titre d'un discernement spirituel toujours singulier et effectué dans une relation ecclésiale d'accompagnement. Fin de citation. Vous voyez que la première impulsion d'un Maurice Laetitia, c'est de susciter une église plus synodale, plus missionnaire et plus discernante. J'en viens à ma deuxième dynamique. Celle qui est suscitée par l'exhortation et que nous voyons déjà à l'œuvre, c'est celle d'une réflexion au niveau de la théologie morale et sacramentaire. Comme vous le savez, certains courants de l'Église se sont interrogés sur la continuité de ce texte du pape François avec le magistère précédent. Quatre cardinaux en particulier ont émis des doutes sur certains points doctrinaux concernant notamment la validité des enseignements du pape Jean-Paul II et ils ont souhaité que le pape y réponde par oui ou par non. Vous avez suivi sans doute cela. Ils se sont demandé si les considérations de l'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, qui insistait sur les normes universelles et les actes intrinsèquement mauvais, était encore valable puisque on semblait vouloir excuser des actes réprouvés par la doctrine de l'Église, et notamment l'adultère pour des divorcés remariés. Avec le frère Jean-Michel Garrigue, dominicain, nous avons longuement répondu aux doutes des cardinaux dans un livre intitulé « Une morale souple, mais non sans boussole », que le cardinal Schönborn a bien voulu préfacer. Il nous a semblé que les enseignements des papes Jean-Paul II et François n'étaient nullement contradictoires, mais complémentaires. Et qu'en lisant l'un à la lumière de l'autre, on évitait d'une part une lecture rigoriste de Veritatis Splendor et de l'autre part une lecture laxiste de Amoris Laetitia. Si le rappel des repères moraux de l'Église est essentiel, il ne faut pas lire les instructions de Veritatis Splendor selon un esprit de géométrie qui ferait de la vie morale une simple déduction logique de l'application d'une norme à un cas particulier, sans pour autant tenir compte des situations singulières et de la place de la conscience dans un nécessaire discernement. J'évoque simplement un des points du débat, parce qu'évidemment il y aurait beaucoup de points à aborder, mais je vous en donne un exemple. Un des points essentiels du débat porte sur les considérations des circonstances atténuantes qui, dans la tradition de l'Église, permettent de distinguer le mal objectif d'un côté et la responsabilité subjective de l'autre. Je cite le pape. au numéro 305 d'Amoris Laetitia. À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Cette déclaration, qui est assurément d'ordre doctrinal, a une grande portée. Et le pape précise d'ailleurs que l'aide de l'Église pourrait à ce niveau concerner les sacrements. En effet, c'est le péché grave et manifeste qui sépare de la communion avec Dieu et qui empêche le pécheur d'accéder à la communion eucharistique. C'est le problème qui se pose pour la question des divorcés remariés et même aussi pour les couples en concubinage. Or, si l'on considère, comme l'indique le pape, que toutes les situations matrimoniales dites irrégulières, hein, le pape n'aime pas ce mot, il y met des guillemets partout, si l'on considère que toutes les situations matrimoniales dites irrégulières ne sont pas nécessairement qualifiées de péché grave, coupant la grâce de Dieu, alors un discernement plus fin, réalisé au fort interne, pourra permettre dans certains cas l'accès au sacrement. Ce n'est pas la doctrine qui change d'une certaine façon, mais la manière de la mettre en œuvre, en prenant davantage en compte l'histoire singulière des personnes, les difficultés et les conditionnements qu'elles ont rencontrés, et en évitant d'appliquer les règles de l'Église d'une manière qui exclut les gens, en adoptant une logique du permis et du défendu. Il faut, à la suite du pape, une théologie et une pastorale de la croissance dans la grâce, en faisant davantage confiance à la conscience. Donc c'est, toute une réflexion sur la théologie morale. Une autre difficulté théologique est apparue plus récemment concernant la doctrine des sacrements. Je crois que Maurice Laetitia, et Hélène Bricou en parlera sans doute davantage, nous invitent à réfléchir à nouveau frais à la doctrine et à la manière de présenter la doctrine des sacrements. Certains théologiens ont souligné que la pratique miséricordieuse proposée par Amoris Laetitia, comme le fait de donner éventuellement le sacrement de l'Eucharistie à des divorcés remariés, risquait de fragiliser le respect dû au sacrement de mariage et au sacrement de l'Eucharistie. Deux sacrements donnés en public et donc exposés aux vues de la communauté. Vous voyez que ce qui est visé ici, c'est le risque de scandale, au sens où certains pourraient croire que désormais les divorcés remariés, tous les divorcés remariés, seraient autorisés à communier de manière habituelle. Une autre manière de le dire, ce serait de souligner que l'Eucharistie, comme le mariage, sont les signes de l'union du Christ et de l'Église, comme dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, et qu'il existe une cohérence interne entre ces deux sacrements. Si on peut comprendre cette crainte au plan pastoral, crainte d'ailleurs qui peut être remédiée sans doute par une information suffisante de la communauté, elle ne doit pas nous conduire à penser que l'examen des cas particuliers reste impossible. La doctrine sacramentelle, tout comme la doctrine morale, n'est pas à penser comme un système parfait, cohérent, si bien huilé au plan de la pensée qu'elle en vienne à ne plus être au service des hommes. Comme le souligne un adage traditionnel, les sacrements sont pour les personnes et non pas l'inverse. L'Eucharistie n'est pas réservée aux parfaits, mais un pain pour la route, pour le chemin de la croissance. Et le pape François rappelle d'ailleurs qu'au sein du mariage sacramentel, l'analogie entre l'union des conjoints et l'union du Christ et de l'Église est une analogie imparfaite et qu'il faut qu'on tienne compte de la fragilité humaine. Une atteinte au sacrement du mariage est certes une blessure de la communion, de l'alliance, mais elle ne saurait remettre en cause l'union divine et irréformable de Dieu avec l'humanité. La comparaison analogique ne doit pas nous entraîner dans une attitude de raideur disproportionnée. Et Hélène Bricou, sans doute, nous en parlera davantage. Donc vous voyez qu'Amoris Laetitia, c'était le deuxième aspect, nous invite à un renouvellement, je crois, de la réflexion théologique au plan de la théologie morale et au plan de la théologie sacramentelle. Elle nous oblige notamment à les penser davantage comme des processus de maturation personnelle, supposant accompagnement et discernement, plutôt que de les considérer simplement comme des applications et des conformités à la loi. Le pape, je trouve, c'est assez important de dire ça, nous invite non pas simplement à entendre les exigences du royaume, mais il nous invite à une pédagogie. Toute exigence, toute doctrine doit être accompagnée d'une pédagogie morale, une pédagogie sacramentelle, un itinéraire, et notamment qui passe par l'apprentissage des vertus pour lui. C'est intéressant, il revient sur le langage des vertus, c'est-à-dire tout ce qui nous permet justement de nous prédisposer au bien et de grandir dans l'apprentissage. Enfin, troisième et dernière dynamique que j'aimerais souligner, c'est la pratique pastorale. Orhan de Motor donnera certainement des éléments plus circonstanciés à ce sujet, mais je voudrais relever quelques points importants tirés de mon expérience des journées de formation dans un certain nombre de diocèses de France. Voilà. Beaucoup de diocèses nous demandent de venir les aider à comprendre ce texte et à voir comment le mettre en œuvre. 2 ans après la publication d'Amoris Laetitia, il me semble que l'un des effets de l'exhortation, c'est la mise en lumière de la pastorale de la famille au sein des diocèses et au sein des mouvements. Voilà. On a beaucoup insisté sur la question des divorcés remariés, ça a fait beaucoup causer, mais en fait, une partie essentielle du document est consacrée à une très belle méditation sur la beauté et la désirabilité du mariage chrétien. Plutôt que de nous rappeler à l'ordre sur ce qui est nécessaire, même s'il rappelle la doctrine, le pape préfère nous faire goûter combien le mariage est bon et beau. C'est un point important de ce document. Voilà. Le chapitre biblique, par exemple, qui ouvre le document et qui décrit la manière dont la parole de Dieu est une compagne de route pour toutes les familles. Je pense aussi au chapitre 4 et 5 qui donnent un peu les conditions pour grandir dans l'amour, un amour fécond. Ce sont de très beaux textes qui peuvent servir beaucoup dans la pastorale familiale aujourd'hui, qui décrivent les joies de l'amour, qui, je pense, sont des outils précieux déjà mis en œuvre dans la pastorale familiale et dans les préparations au mariage ou dans la pastorale des jeunes. Des mouvements comme le Clerc ou les équipes Notre-Dame ont étudié ce texte comme thème d'année, par exemple. Et puis l'édition commentée dont on parlait tout à l'heure, a noté, et je crois un outil précieux qui a aidé beaucoup ces groupes pastoraux ou ces acteurs pastoraux. Je crois que par sa méditation, le pape nous montre l'importance de la pastorale familiale, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la société tout entière. Au sein de l'Église, il montre que cette pastorale est au carrefour de toutes les autres pastorales et qu'elle gagne à être mise en relation, par exemple, avec la pastorale des jeunes, avec la pastorale des sacrements d'initiation. Ce sont les mêmes couples qui vont aller demander le baptême de leurs enfants et qui peut-être se prépareront au mariage ou viennent de se préparer au mariage. Avec la pastorale liturgique, avec la pastorale de la diaconie, notamment. Je pense que les familles pauvres ne doivent pas être les oubliés de cette pastorale, d'autant plus qu'elles ont beaucoup à nous apprendre sur l'importance, la valeur et la force de la vie familiale. Les pauvres ont des choses à nous dire à ce sujet. Je pense par exemple aux initiatives qui ont eu lieu de rapprocher les dynamiques diaconiales et les dynamiques de la pastorale familiale, notamment à Tours, à Orléans ou à d'autres endroits. Et le pape rappelle aussi combien la vie de famille est essentiel à la vie sociale. C'est le premier lieu d'initiation à la solidarité, au partage, à la responsabilité, à la place donnée à l'autre, dans le respect et dans l'amour. Voilà, il me semble que cette exhortation a dynamisé les équipes pastorales chargées de la famille, elle les a mises en relation avec les autres acteurs pastoraux, ce qui n'était pas toujours le cas, et elle les a poussées à renforcer leur formation, notamment en ce qui concerne l'accompagnement, le discernement. Et je veux, pour exemple, les nombreuses journées de formation qui sont organisées dans les diocèses. Presque tous les diocèses de France ont fait des journées de formation sur ces sujets récemment. Comme le montrent également les pistes pastorales qui ont été déjà élaborées par plusieurs diocèses pour mettre en œuvre Amoris Laetitia dans l'accompagnement des familles dans leur diversité de situations. Je pense notamment à Rouen, Le Havre, Versailles, Pontoise, Lyon et bien d'autres. Voilà, 2 ans après Amoris Laetitia, Il me semble que l'enjeu de la famille est désormais perçu comme un lieu missionnaire essentiel. Voilà, c'est un lieu essentiel de la pastorale de l'Église. C'est aussi un lieu de réflexion théologique et c'est aussi un lieu de rencontre des différents acteurs pastoraux. C'est évidemment une tâche à accomplir qui n'est pas terminée et qui demeure par bien des aspects une conversion à vivre.
Merci Père pour cette présentation en trois points très suggestifs, ecclésiologie, théologie, pastorale, que nous avons toutes et tous d'ores et déjà retenus. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils suivent un mardi d'éthique publique du Centre Sèvres consacré à l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, 2 ans après, où en est-on ? Le père Thomasset, dans sa présentation, a évoqué à plusieurs reprises la théologie sacramentaire. C'est une discipline théologique que Hélène Bricou enseigne à l'Institut catholique de Paris. Le père Thomasset vous a interpellé en particulier sur ce point. Vous avez maintenant la parole.
Merci bien. Alors, dans Amoris Laetitia, le pape se situe résolument à l'intérieur d'une vision personnaliste du mariage, telle que le Concile Vatican II l'a engagé, et non pas la vision à dominante juridique qui prévalait antérieurement. Il insiste sur l'importance de l'engagement de toute la personne et de chacune des deux personnes pour toute la vie, sur les ressources de la foi, sur la nécessité de tenir compte des conditions concrètes, de nourrir les couples en profondeur et donc de les accompagner dans la durée. Cette vision récente n'a pas encore déployé tous ses effets dans la théologie du mariage. D'autant plus que la vision juridique reste malgré tout encore très prégnante dans les textes et dans nos têtes. Par ailleurs, la théologie du mariage est complexe, car le mariage est une réalité humaine qui intéresse différentes disciplines théologiques, l'exégèse, la morale, l'histoire, l'ecclésiologie, le droit, la sacramentaire. Amoris Laetitia encourage la reprise et l'approfondissement des travaux de recherche dans ces différents domaines. Je voudrais ici identifier quelques-unes, et quelques-unes seulement, des questions qui se posent actuellement de manière un peu brûlante en théologie sacramentaire, et pour lesquelles Amoris Laetitia propose quelques pistes. Je ne retiens que 4 questions. Je précise d'ailleurs que cette présentation est davantage une première tentative de clarification que la proposition de solution. Elle ne peut avoir de valeur que provisoire. En outre, il ne faudrait pas oublier que la vision sacramentaire ne se suffit pas. Le dialogue avec les autres disciplines susmentionnées est nécessaire. La première question est suscitée par le numéro 36 de l'exhortation, qui appelle à une salutaire réaction d'autocritique, en soulignant en particulier, je cite le numéro 36, que nous avons présenté un idéal théologique trop abstrait, presque artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives des familles réelles. Il est vrai que la théologie du mariage, comme plus généralement celle des sacrements, s'est élaborée en s'appuyant principalement sur des concepts qui étaient les outils privilégiés de la réflexion théologique médiévale. Matière, forme, ministre, rite essentiel, effet, etc. Même si le langage s'est en partie renouvelé depuis quelques décennies, nos discours restent marqués par une tension entre des langages différents qui ne s'accordent pas toujours bien, principalement 2 langages. Il y a d'un côté une vision qu'on peut appeler juridico-scolastique et qui est issue du gros travail effectué par les théologiens du Moyen-Âge. Cette vision conçoit les sacrements comme des choses produites à un moment donné. Tout est donné et réalisé avec l'administration du sacrement. Aucun accident ne pourra venir l'altérer. Le mariage est ainsi défini comme un état de vie indissoluble, institué définitivement par un contrat énoncé dans les conditions requises, et il le demeure, quoi qu'il advienne de la réalité concrète. D'un autre côté, le Concile Vatican II, mais plus largement la théologie à partir du milieu du XXe siècle, a promu une vision des sacrements à partir du mystère pascal, dans une attention renouvelée à l'Écriture et à la tradition des pères de l'Église. Les sacrements sont mieux apparus comme des signes du salut, accomplis par Dieu, par la médiation de l'Église, présupposant la vie réelle et concrète des personnes pour les conduire à la sainteté en fonction de leur histoire et de leurs possibilités. Dans ce contexte, le sacrement de mariage apparaît comme une histoire du salut qui se déploie dans une construction conjugale continue, un itinéraire de vie spirituelle en compagnie du Christ, le Christ présent par sa parole, par l'Église et par les sacrements. La théologie contemporaine cherche à relire la tradition longue de l'Église et à la communiquer aux hommes et aux femmes de ce temps. On peut prendre l'exemple de l'indissolubilité. Ce terme, qui n'est ni biblique ni patristique, désigne l'impossibilité juridique de dissoudre le lien conjugal. En en faisant une propriété automatiquement attachée à un échange valide de consentement, le droit insinue qu'elle est réalisée. À la suite de la relation finale des évêques au synode, François veut promouvoir l'indissolubilité comme un don et non comme un fardeau ou un joug. L'abondance du vocabulaire évoquant le chemin, la construction, la maturation, la croissance, souligne bien davantage que l'indissolubilité n'est pas acquise le jour du mariage, ni une simple propriété juridique attachée au contrat, mais un engagement éthique, une vocation qui requiert l'effort de la volonté, la patience, la collaboration à la grâce reçue, bref, le développement, à deux, d'une œuvre de liberté, qui est exaltante, certes, mais aussi risquée et faillible. On comprend mieux aujourd'hui l'indissolubilité en parlant de la vocation à la permanence et à la croissance du lien conjugal, dans une vision personnaliste. C'est dans la parole de Dieu que son sens profond se dévoile. C'est dans la foi au Christ qu'elle grandit et se construit. Dans la vie quotidienne qu'elle s'épanouit. Pour le dire autrement, auparavant on cherchait à obtenir des couples la stabilité par une pression extérieure. Aujourd'hui, on cherche à les aider à trouver en eux-mêmes et dans la foi les ressources pour la vivre dynamiquement. La visée est bien la même, mais le langage et la vision diffèrent. Par ailleurs, la théologie contemporaine cherche à répondre à des questions qui n'ont pas encore trouvé de solution. Par exemple, comment prendre en compte l'échec conjugal, dont on sait qu'il est parfois possible et qu'il l'a toujours été? La théologie élaborée au Moyen-Âge ne sait pas et ne peut pas le penser. L'échec n'existe tout simplement pas. Quelle théologie du mariage élaborée aujourd'hui qui prennent en compte la réalité concrète du mariage, et donc aussi les situations qui ne correspondent pas pleinement ou plus à l'idéal chrétien. Comment mieux tenir compte de la diversité des situations, comme le demandait déjà le pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, et comme le rappelle François, par exemple du fait que certaines personnes ont subi une séparation et que d'autres en sont responsables. Comment traduire en acte cette distinction? Une deuxième question porte sur l'ensemble de l'organisme sacramentel, c'est-à-dire les 7 sacrements. Il nous faut mieux articuler les différents sacrements entre eux, manifester leur spécificité et leur complémentarité au service de la foi et de la vie chrétienne. Il est difficilement compréhensible, par exemple, que l'échec vécu dans la mise en œuvre d'un sacrement bloque l'accès aux autres sacrements. De même, on invoque souvent la cohérence des sacrements et le fait que le remariage empêche de participer à la communion parce qu'il est en contradiction objective avec la communion d'amour du Christ et de l'Église représentée par le sacrement de l'Eucharistie. Il est vrai que l'Eucharistie représente la communion d'amour du Christ et de l'Église. Mais, comme le rappelait déjà fortement le Concile de Trente, les sacrements ne sont pas égaux entre eux. L'Eucharistie, qui actualise le mystère du Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous, est le plus éminent des sacrements, parce qu'elle rend le Christ présent réellement. En revanche, le sacrement de mariage ne rend pas le Christ présent de la même manière. La communion entre le Christ et l'Église n'est pas réalisée par le sacrement du mariage comme elle l'est par celui de l'Eucharistie. Le mariage fait des époux un signe de l'amour de Dieu, mais seulement un signe, et qui plus est, un signe imparfait. Son échec et éventuellement un remariage, ne détruit pas la communion d'amour entre le Christ et l'Église. Le sacrement de mariage n'est donc pas situé de la même manière que l'Eucharistie par rapport à la communion d'amour du Christ et de l'Église. L'Eucharistie la rend présente réellement, le mariage s'y réfère au titre de signe imparfait. De même, le rapport entre le mariage et le sacrement de réconciliation, mais aussi le mariage et le baptême, ont besoin d'une reprise de fond. Approfondir le lien entre les sacrements permettra de mieux en tirer les conséquences théologiques et pastorales. Il nous faut nous interroger en troisième lieu sur les représentations des sacrements qui sont induites à propos de leur rôle et de leur nature, de leur place dans la vie de l'Église et des fidèles, quand on interdit leur réception à certaines catégories de personnes ou à certaines situations. En effet, le sacrement de la réconciliation est fait pour réintégrer dans la pleine communion avec Dieu et avec l'Église des fidèles qui s'en sont séparés par une faute grave, qui s'en repentent et cherchent à vivre au mieux dans la situation qui est la leur, un chemin de vie et de croissance humaine et spirituelle. Lorsque nous le recevons avec humilité, regret et confiance en l'amour infini de Dieu, nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché, comme dit le rituel de la pénitence. Et nous accueillons sa grâce pour vivre la conversion possible. Que comprendre ? Lorsque l'on s'entend dire que le pardon de Dieu ne peut pas nous être donné. De même, le sacrement de l'Eucharistie signifie et réalise l'union des fidèles qui communient au Christ et inséparablement la communion de tous les fidèles entre eux par la charité. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, entendons-nous dans la troisième prière eucharistique. Ou encore, heureux les invités au repas du Seigneur. Que doit-on en déduire quand on ne peut pas communier de manière définitive? Le refus définitif des sacrements court fort le risque de mécompréhension grave sur les sacrements. Il existerait des péchés impardonnables. Et les sacrements seraient réservés à ceux qui sont dignes. Et c'est bien ainsi qu'on comprend les choses ordinairement, comme l'indique le sentiment d'exclusion qu'éprouvent les baptisés, divorcés et remariés, et d'autres fidèles, malgré un discours vigoureux en sens contraire depuis quelques décennies. François tient à rappeler, dans Amoris Laetitia, ce qu'il avait déjà écrit en Evangelii Gaudium 47. L'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Si l'exhortation appelle à intégrer les personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité, Nous devons nous souvenir que les sacrements sont au service de cette mission et mieux comprendre comment ils le font pour les mettre en œuvre avec justesse. La dernière question que je souligne est celle qui porte sur le lien entre les dimensions objectives des sacrements, c'est-à-dire ce que dit la norme, et la dimension subjective, c'est-à-dire ce que vivent les personnes, ou également entre dimension personnelle et dimension communautaire. Sur cette question, le pape François a gardé de Familiaris Consortio 84, qui porte sur l'accès au sacrement des personnes divorcées et remariées, le passage qui porte sur le discernement des situations, dont a déjà parlé le père Alain Thomasset, c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte les différences de situation. Tous ne sont pas responsables, ou pas au même degré, d'un échec conjugal. Tous ne sont pas subjectivement en état de péché grave. Mais le pape n'a pas repris le passage qui porte sur la situation objective de péché qui empêche l'accès au sacrement, quelle que soit la responsabilité des personnes. Selon Amoris Laetitia, ce qui détermine l'accès au sacrement, ce n'est pas prioritairement la situation objective, mais le discernement de la responsabilité de la personne, de son itinéraire et de ses besoins spirituels. Ce discernement inclut la prise en compte de la situation objective, mais sans s'y limiter. Dès lors, le motif du canon 915 du Code de droit canonique, sur lequel on s'appuie pour exclure les baptisés, divorcés et remariés des sacrements, et qui indique qu'il s'agit de persistance avec obstination dans un péché grave et manifeste, ce canon doit-il s'appliquer à toutes les situations sans distinction? Par ailleurs, l'exclusion sacramentelle est un acte grave qui mutile le corps ecclésial, précisément en raison de la signification communautaire de l'Eucharistie. L'exclusion isole les personnes concernées et manifeste aux yeux de tous leur situation dite irrégulière. Est-il nécessaire de stigmatiser une situation irrégulière pour attester la valeur de la situation régulière? On peut aussi rappeler, à propos de la dimension communautaire des sacrements, que les rapports occidentaux de la consultation préliminaire au premier synode ont révélé l'incompréhension des fidèles dans une large mesure à la discipline du refus d'accès aux sacrements et le vif désir d'une évolution. À juste titre ou non, il faut constater que le scandale n'est pas là où on le pense parfois, et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Dans le même sens, plusieurs expériences de retour au sacrement vécues à l'intérieur d'une communauté paroissiale, en cohérence avec le dispositif diocésain prévu pour l'accompagnement des personnes, témoigne d'une nouvelle mise en œuvre du rapport entre dimension personnelle et communautaire des sacrements. Ce ne sont là que quelques questions, il y en a évidemment d'autres. Nous avons besoin de temps, de courage et de discernement ecclésial pour les affronter. En même temps, nous ne pouvons pas attendre que tout soit résolu pour cheminer avec les personnes. Là encore, comme va nous le montrer Oran de Motor, Amoris Laetitia ne nous laisse pas démunis.
Merci beaucoup à Hélène Bricou pour cette présentation très complète et suggestive de situations vécues souvent douloureusement et sur lesquelles sans doute nous aurons à revenir dans la suite du débat. La troisième et dernière intervention est celle d'Oran de Motor, directrice du pôle famille au sein du service famille et société de la Conférence des évêques de France, et c'est elle qui conclura les interventions de ce soir dans ce mardi d'éthique publique consacré à l'exhortation apostolique à Amoris Laetitia 2 ans après.
Merci et bonsoir à tous. Alors moi, c'est de la réception pastorale proprement dite que je vais vous parler, et je voudrais souligner les autres l'ont fait avant moi, mais je voudrais souligner à nouveau son dynamisme. Et je le ferai à partir de trois aspects. Je voudrais dire que nous sommes d'abord toujours dans un temps de découverte. Nous sommes aussi déjà dans un temps de créativité et de recherche. Et enfin, je crois que nous nous engageons aussi dans un temps de collaboration nouvelle. Et je m'expliquerai sur ce terme tout à l'heure. Donc ce temps de découverte, il est effectivement assez impressionnant de voir le grand nombre d'initiatives lancées depuis 2 ans maintenant pour faire découvrir ce grand texte qui est Amoris Laetitia. Cela se vit dans des rencontres, des conférences qui s'adressent à tout le monde, des sessions qui rassemblent ce qu'on pourrait appeler les forces vives d'un diocèse, des sessions de rentrée par exemple, mais aussi des journées qui rassemblent les prêtres et les diacres, ou bien des assemblées générales de mouvements. Donc toute une série de rencontres. Et cela se vit aussi par le web. Il y a des montées vers Pâques en ligne avec Amoris Laetitia, des tweets qui permettent de faire goûter Amoris Laetitia avec diverses citations. Voilà, toute une série d'initiatives, parce que les diocèses ont vraiment voulu faire goûter au plus grand nombre la richesse de ce texte majeur. Alors, quelques outils pédagogiques ont aussi facilité la découverte. On a déjà parlé d'éditions annotées. J'y reviens parce que ce texte, accompagné d'explications chapitre par chapitre, les témoignages, le glossaire, les questions, ont permis de rentrer plus facilement dans l'exhortation, qui est tout de même assez longue, il faut bien le reconnaître, 325 numéros. Autre illustration d'une initiative concrète, le diocèse de Rouen en a fait cette année passée un axe majeur de son livret de formation diocésaine, avec une proposition de 5 ateliers à vivre en paroisse. Et cette proposition démarre avec le chapitre 7 de l'exhortation, pas avec le chapitre 8, avec le chapitre 7, celui qui traite de l'éducation des enfants. Parce que c'est une porte d'entrée qui permet à tous de se retrouver à égalité. Les parents sont des parents, quelle que soit leur situation familiale. Ces diverses formations ont en général une triple visée. D'abord, donner le goût d'Amoris Laetitia, ensuite permettre sa compréhension, et puis favoriser un partage sur la vie familiale. Et tout le monde est heureux de partager sur sa vie familiale. Et je peux en témoigner, les participants de ces formations, qui sont parfois un peu perplexes en début, en se demandant si ce texte les concerne, s'ils vont en retirer quelque chose, sont en général très heureux d'avoir découvert quelque chose qui les encourage et qui les soutient, quelle que soit leur mission, quelle que soit leur vie. Alors je souhaite cependant faire preuve d'un peu de réalisme et dire, reconnaître avec vous qu'en dehors du cercle des plus engagés, l'exhortation n'a pas été complètement lue par tout le monde. On pourrait faire un petit sondage dans la salle, même si on ne peut pas le faire à la radio. Au mieux, certains en ont entendu parler, mais au fond, très peu l'ont lu. Et parallèlement à cette forme d'ignorance, certains expriment aussi de la perplexité, voire quelques craintes, on les a évoquées. Crainte, par exemple, devant l'invitation à discerner le bien dans des situations imparfaites. N'est-ce pas dangereux? Crainte de perdre un certain pouvoir. On a toujours fait comme ça, on sait faire. Crainte aussi devant les exigences réelles d'une pastorale du corps à corps, qui engage. Alors c'est vraiment en travaillant à Amoris Laetitia que l'on peut trouver les réponses à ces questions, et le temps de la découverte n'est pas fini. Cela appelle à de la créativité, et je voudrais signaler au niveau de l'Église universelle que nous allons bientôt avoir la prochaine rencontre mondiale des familles à Dublin, fin août, et elle sera centrée sur Amoris Laetitia et sa mise en pratique. Ce rassemblement, voulu par Jean-Paul II, c'est un peu comme les JMJ des familles. Pour préparer la rencontre, les Irlandais, qui font un travail de labourage et un travail de fond, ont imaginé, entre autres, un bel outil pastoral, le programme Amoris, parlons famille, soyons famille. 6 rencontres avec des vidéos, un peu d'enseignement, des temps de partage. Et il est aussi pour nous parce qu'il est traduit en français. Enfin, toujours dans ce temps de créativité pour faire découvrir le texte, j'attire votre attention sur ce qui existe depuis peu dans des universités catholiques qui proposent des nouvelles formations pastorales pour accompagner les familles. À l'Institut catholique de Paris, cela répond au doux nom de CADIF, Certificat d'accompagnement et de diaconie des familles. Et à Lyon, à l'Université catholique de Lyon, c'est le CERPAF, Certificat de pastoral des familles. L'idée de ces formations, qui se font sous forme de modules pour que ça soit accessible au plus grand nombre, c'est que pour accompagner les familles, il faut allier approfondissement théologique et échange d'expérience, échange de pratiques. La question familiale n'est pas d'abord théorique. Voilà, un temps donc on est dans ce temps de découverte et j'aborde mon second point. Nous sommes aussi déjà dans un temps de créativité et de recherche. Alain Thomasset et Hélène Bricou ont indiqué certains axes pour l'approfondissement théologique. J'esquisse ici quelques lieux où se vit, et je cite à Maurice Laetitia au numéro 38, une pastorale positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l'Évangile. Fin de citation. Alors, premier aspect, le défi du soutien des couples vers le mariage et dans le mariage. Je pointe un lieu de renouvellement, pour pas faire un catalogue à la Prévert de tout ce qui se vit sur le terrain. Des équipes de préparation au mariage partagent plus qu'avant la parole de Dieu avec les couples qui se préparent vers le mariage. Sensible à ces mots du chapitre 1 que le père Thomasset a cité tout à l'heure, la parole de Dieu n'est pas une séquence de thèses abstraites, mais une compagne de voyage pour toutes les familles, y compris celles en crise ou en souffrance. Ces équipes goûtent l'écriture avec les couples. C'est de l'ordre de l'initiation, pas de l'enseignement. Et cela peut favoriser la rencontre du Christ comme un ami. Premier petit coup d'œil, clin d'œil à ce qui se vit sur le terrain pour l'accompagnement des couples. Maurice Laetitia souligne aussi l'importance d'accompagner les couples après le mariage. Et le nombre d'années après le mariage est plus long que le nombre d'années avant le mariage. Donc c'est important, notamment au début du mariage et dans les crises. Et je vois la vitalité renouvelée des équipes tandem, ce mouvement qui accompagne les jeunes couples. C'est un signe vraiment intéressant. Une question que je vous pose, et que je me pose et que je nous pose, si l'on croit que le mariage sacramentel peut être un chemin de bonheur, peut-on se résoudre à simplement constater l'impressionnante diminution du nombre de mariages religieux? Une baisse de 40% en 10 ans. Voilà, un appel qui nous est lancé. Deuxième aspect, le défi de l'intégration des personnes en situation complexe, en situation de fragilité diverse. Maurice Laetitia, on l'a dit, a donné un élan net pour l'intégration des personnes divorcées, des personnes concernées par l'homosexualité, des familles monoparentales, des familles les plus pauvres. Et les initiatives pastorales qui se déploient s'appuient pour une part sur des pratiques déjà en œuvre, mais les renouvellent et les inscrivent plus nettement dans une dynamique ecclésiale. Pour ce qui est des personnes homosexuelles et de leurs familles, un vrai mouvement de fond se dessine en France. De très nombreux diocèses nomment des personnes pour l'accompagnement pastoral, ou bien proposent des groupes de parole, ou encore des soirées de formation, des marches, des parcours, la différence parlons-en, à Poitiers, à Tours, dans d'autres diocèses. Pour les personnes divorcées et remariées, il y a des recherches, j'y viens, mais avant cela, je voudrais dire que d'une certaine manière, ces initiatives et ces recherches rejaillissent sur l'accompagnement des personnes divorcées qui ne se remarient pas. Car elles permettent d'aborder un peu mieux les souffrances du divorce. Un peu plus de propositions leur sont faites localement, pas assez sans doute. d'une certaine manière, leurs difficultés peuvent être plus visibles, plus parlées. Et cela peut favoriser l'intégration effective qui n'est pas toujours encore au top, si je puis dire. Pour ce qui est des personnes divorcées engagées dans une seconde union, on en a parlé sur divers plans, des évêques ont donné des orientations pour répondre à la demande d'Amoris Laetitia de favoriser un discernement personnel et pastoral, y compris pour l'accès au sacrement. À Rouen, par exemple, plusieurs centaines de personnes avaient répondu à une invitation de Mgr Lebrun au Vêpres de la Toussaint en 2016. Et l'un des aspects frappants de cette invitation fut de demander pardon pour des attitudes qui avaient pu contribuer à ce que l'échec d'un mariage devienne pour les personnes l'échec d'une vie. Le chemin se poursuit maintenant, à l'appel de l'évêque, pour ceux qui le souhaitent, par une démarche personnelle. Un accompagnement au fort interne avec un missionnaire de la miséricorde, puis au fort externe avec leur curé, pour discerner quel geste poser en tenant compte de la communauté. J'ai prononcé le mot « communauté ». Il apparaît en effet très important d'accompagner les communautés chrétiennes, car les jugements et les incompréhensions sont souvent fruits de l'ignorance. Autre exemple, à Lyon, le cardinal Barbarin les a accueillis pour un temps de prière et de témoignage. Il les a invités à engager un travail spirituel de discernement en rencontrant un prêtre ou un aîné dans la foi susceptible de les comprendre ou de les éclairer. Et on pourrait citer, le père Thomas Say l'a fait tout à l'heure, Créteil, Versailles, Le Havre, Pontoise. D'autres diocèses sont en route. En offrant ces pistes pastorales, les évêques exercent leur discernement vigilant et soutiennent tout le peuple de Dieu. Non seulement les personnes divorcées dans leur recherche de la suite du Christ, mais aussi les pasteurs et les communautés chrétiennes. Je termine ce coup de projecteur sur ce temps de recherche en évoquant le défi de la formation morale. Amoris Laetitia nous invite à passer d'une morale du tout ou rien à une morale des petits pas, à sortir de la logique du permis défendu pour grandir dans la liberté responsable. Alors le discernement, ce thème cher au pape François, est toujours abordé dans les formations. Et la question amène souvent de la perplexité, voire de l'inquiétude, on ne sait pas faire, c'est pour des spécialistes, c'est pour les situations difficiles. Mais dans sa dernière exhortation sur la sainteté, le pape nous invite à considérer que le discernement se vit aussi dans l'ordinaire des jours. Alors ces questions de morale, de formation morale deviennent vives et il y a là un grand champ à réinvestir pour le bien de tous. Troisième et dernier point très rapide, on est dans un temps de collaboration nouvelle. Savez-vous qu'en France, nous avons la chance d'avoir des délégués à la pastorale familiale dans presque tous les diocèses ? Ces délégués, souvent des laïcs nommés par leur évêque, ont été en première ligne pour accompagner les deux synodes. Ils sont maintenant très sollicités pour la réception d'Amoris Laetitia. Qu'ils soient ici remerciés pour cette responsabilité passionnante et exigeante. Historiquement, ils étaient plutôt chargés de la coordination des mouvements et leur mission est aujourd'hui transversale. Ils sont au cœur des questions pastorales. Les familles sont vraiment au cœur des questions pastorales. Et cela pousse à une collaboration bien plus grande entre équipes, mouvements, services diocésains pour prendre en compte les familles comme elles sont. Pas les familles rêvées, mais les vraies familles. Et j'en donne quelques illustrations. La pastorale de la santé, qui constate que les séjours en hôpital sont de plus en plus courts et dont la mission se renouvelle, s'interroge. Comment soutenir les aidants familiaux ? Qui sont les familles d'aujourd'hui ? Qu'attendent-elles comme accompagnement ? La vie sacramentelle, elle s'inscrit dans les réalités familiales. Et dans bien des familles, le baptême des enfants est célébré alors que leurs parents ne sont pas mariés. Peut-il devenir une porte d'entrée vers le mariage ? Eh bien oui, des équipes y travaillent. Quant à la catéchèse et le catéchuménat, ils sont particulièrement sensibilisés à une meilleure prise en compte de la dimension familiale. Et les formations dans les diocèses sur le thème « Rejoindre les familles d'aujourd'hui » se multiplient. Plusieurs axes se dessinent alors dans ces formations et pour ces équipes. Reconnaître la diversité des familles. être à l'écoute de leurs demandes et possibilités concrètes, avec des services pratiques comme par exemple des trajets ou des horaires adaptés. Ouvrir à une catéchèse familiale qui prenne en compte l'enfant, mais aussi ses proches. Intégrer les parents et leur faire confiance. Les familles, avec leurs histoires plus ou moins chaotiques, plus ou moins faciles, sont au cœur de la mission de l'Église. Et de nombreux acteurs de la pastorale sont sensibles au verbe programmatique « accueillir », accompagner, discerner, intégrer, et attentif à voir toute personne dans le tissu de ses relations et dans son histoire, l'accompagner dans son chemin quel qu'il soit. Alors oui, nous sommes bien dans le temps de la découverte, de la créativité et du déploiement. Les deux premières bougies d'Amoris Laetitia viennent d'être soufflées. C'est l'occasion de se réjouir car le travail de réception d'Amoris Laetitia se fait bel et bien. Merci.
Merci à... Merci à Oran de Motor. Nous disposons de 5 minutes si vous voulez réagir aux propos des uns et des autres. Pour ma part, je fais un lien avec le précédent mardi d'éthique publique à propos de ce que vous avez dit sur la diminution du nombre des mariages religieux, qui est impressionnant. Mais effectivement, Guillaume Cuchet, il y a un peu plus d'un mois, nous rappelait que le nombre des baptêmes n'a pas diminué dans les mêmes proportions. Donc il y a une distorsion entre le nombre des baptêmes et le nombre des mariages religieux. Donc effectivement, il doit bien y avoir un assez grand nombre de parents non mariés qui font baptiser leurs enfants.
Oui, peut-être une petite réaction. C'est intéressant de voir comment Amoris Laetitia nous oblige à penser les choses de manière transversale. On a dit ça plusieurs fois, c'est au carrefour de plein de questions. Ça pose des questions morales, des questions sacramentaires, des questions pastorales. Et ça nous oblige aussi à penser l'interaction entre la pratique, la pastorale elle-même et la réflexion théologique. Et ça, je trouve que le pape nous invite sur ce chemin de travail, de mieux prendre en compte la réalité des gens. Ça doit faire réfléchir les théologiens sur la manière de présenter la doctrine aussi, et inversement. Voilà, ce serait une première réaction que j'aurais sur la...
Hélène Bricou.
Je rejoins tout à fait la réaction d'Alain Thomasset sur la mise en route, la stimulation de l'exhortation sur des questions de sacramentaire qui étaient peut-être un peu alors en sommeil, je ne sais pas s'il faut utiliser cette expression-là, mais c'est vrai que l'exhortation nous réinterroge à partir de la situation pastorale, ce qui n'était pas forcément notre réflexe premier en théologie sacramentaire.
Bien, merci à chacune et chacun d'entre vous pour ces présentations très stimulantes et suggestives. Et je rappelle que donc nous suivions un mardi d'éthique publique consacré à l'exhortation apostolique à Amoris Laetitia, la joie de l'amour, 2 ans après, où en est-on ? Merci beaucoup. Voilà, merci. Et nous avons maintenant devant nous une bonne demi-heure, large demi-heure d'échange possible. Et comme c'est devenu un peu la tradition, nous commençons par une question par SMS de nos auditeurs de Bordeaux.
Alors oui, il y a même 2 questions, si c'est possible.
Alors, 2 questions.
Quels sont les dispositifs pour accompagner les jeunes époux après le mariage ? Et la deuxième question, c'est pouvez-vous expliquer le terme de signe imparfait de l'amour du Christ ?
Alors la première, je pense, s'adresse surtout à Oran de Motor. Puis la deuxième, à Hélène Bricou. Voilà.
Alors le mot dispositif, je résiste un peu. Parce que de fait, tout ce qui est accompagnement des personnes, et là c'est l'exemple de l'accompagnement des jeunes époux, ça se vit localement avec les possibilités concrètes qui sont assez différentes selon le lieu, les possibilités concrètes des diocèses et des communautés paroissiales. J'ai évoqué dans mon propos les équipes tandem. C'est un mouvement qui est né des équipes Notre-Dame, en l'occurrence, et qui propose un parcours de 3 ans idéalement, mais assez souple, sous forme de réunion d'équipe où on prend les thèmes un peu classiques qui sont les relations avec les beaux-parents, l'argent, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, pour prendre le mot employé, c'est que les rencontres permettent à ces couples, qui sont mariés ou pas d'ailleurs, de faire église en quelque sorte. Parce que une des difficultés, c'est que les couples qui se préparent au mariage, quelquefois n'ont pas de lien avec une communauté ecclésiale et se retrouvent assez seuls. Voilà. En tout cas, voilà, une manière de faire. Localement, après, il y a des initiatives du même style, vie d'équipe. Mais ça reste un peu un grand champ à labourer. Il faut le reconnaître. Voilà. En tout cas, c'est un lieu de recherche. C'est un vrai lieu de recherche.
Vous voulez qu'on répète la question ou...
Vous pouvez. Non, alors, donc, si j'ai bien compris, la question, c'est... Que signifie parler pour les couples de signes imparfaits? Sans doute, il faut revenir il faudrait prendre le temps de revenir à l'origine de l'analogie qui est la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, et qui donc compare le couple humain à l'union du Christ avec l'Église. Cette analogie repose sur donc deux figures qui sont différentes. D'un côté, l'amour du Christ pour l'Église, et cet amour est total, absolu, radical. Il va jusqu'au bout. Il est parfait. Comme d'ailleurs tout ce qui qualifie Dieu. Dieu seul sait aimer totalement. Dieu seul est saint. Donc tous ces qualificatifs qualifient pleinement Dieu. Quand il s'agit de l'autre terme de l'analogie, le couple humain, eh bien évidemment, la perfection, comme on le sait, eh bien, ne peut pas le qualifier. En revanche, les couples humains sont invités à participer, à être image, et de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte la durée. Un couple humain est de plus en plus une image de l'amour de Dieu, mais jamais une image parfaite. Seul le Christ est l'image parfaite du Père et de l'amour de Dieu. Nous autres, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons. Et c'est déjà pas mal. Mais ça nous condamne, en fait, notre situation humaine limitée, marquée par la faiblesse, la finitude, nous condamne, si on peut dire, à n'être que des images imparfaites, mais en même temps à être des images, et en cela aussi réside toute la grandeur de l'amour humain qui est capable d'un progrès coextensif à la vie du couple.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Bien sûr.
Le dernier numéro d'Amoris Laetitia, le numéro 325, nous permet justement de nous inscrire aussi dans une perspective eschatologique, et ça fait écho à ce que dit Hélène. Eh bien, c'est seulement au ciel qu'on sera parfait. Voilà, c'est ça. Donc le pape nous invite à continuer à cheminer et à ne pas nous désespérer de nos limites, mais à considérer que c'est seulement dans la vie éternelle que nous serons parfaits. C'est pour compléter un peu.
Juste un petit mot pour dire, le pape, je crois, dans le texte dit, le couple est un signe historique de l'amour de Dieu. C'est important ce mot historique parce que ça revient tout le temps dans la plume du pape. C'est-à-dire, c'est dans les conditions de l'histoire. Voilà, dans nos conditions humaines finies, limitées. C'est là-dedans qu'on témoigne de l'amour de Dieu, mais on sait bien que c'est imparfait, que c'est fini, et que c'est dans l'histoire. C'est-à-dire que ça peut progresser, il peut y avoir des hauts et des bas d'ailleurs, mais voilà. C'est dans l'histoire, c'est pas éthéré dans le ciel ou ailleurs. C'est vraiment parmi nous dans notre monde.
Alors, je vous propose que nous prenions 3 questions pour entamer le débat. Alors, ici.
D'abord, je louerai l'Esprit Saint pour que ces problèmes de conjugaux soient évoqués en Occident en ce début du XXIe siècle. Je me permets aussi de faire une un drame du lien qui a été rompu en 1100 quelque chose entre l'Occident et l'Orient, parce qu'il y a longtemps qu'en Orient, en orthodoxie, ces problèmes conjugaux sont abordés et résolus. Je me permets une petite remarque. Jamais, je dis bien jamais, un évêque ou un prêtre est orthodoxe et fait une lettre ou un sermon sur les problèmes conjugaux. Ce sont des problèmes qui se règlent essentiellement entre le confesseur ou le père spirituel et les mariés. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais dire.
Deuxième question. Oui, ici.
Oui, bonsoir et merci. Moi, j'aurais juste aimé un petit zoom, un petit cours express sur le canon numéro 951. Je voudrais savoir d'où il sort, sur quoi il repose, à quelle époque, enfin voilà.
Bien. tout au fond de la salle, Jean-Yves.
Oui, peut-être une question précisément induite par l'intervention précédente sur l'orthodoxie. Est-ce qu'on peut peut-être nous dire par quel processus historique, je dirais, l'Orient et l'Occident ont divergé sur ce point et en quoi l'Orient a peut-être des choses à nous apprendre?
Alors, sur nos frères séparés depuis 1054.
Pardon, merci. Les causes de la séparation sont complexes et en partie politiques. Donc, on ne va pas ouvrir ce dossier-là ce soir parce que, d'abord, je n'en ai pas les compétences. Voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est très complexe. Évidemment, c'est pas le mariage qui a séparé et qui a provoqué la rupture entre Orient et Occident. Mais il se trouve que dans leur contexte culturel propre, chacune des traditions orientales et occidentales a suivi son propre développement, son propre chemin par rapport à cette question. Alors, il est vrai que alors, en même temps, il ne faudrait pas penser que toutes les traditions orientales soient concordantes sur ce point. Il y a une certaine diversité parmi les églises orthodoxes sur la manière de considérer les divorces et les remariages. On peut dire globalement que pour l'Église byzantine, ce qui est important, alors c'est effectivement le discernement d'une situation existante qui peut amener à reconnaître que le lien conjugal n'a plus de réalité, n'est plus vivant et mort. Alors évidemment, ça n'a aucun caractère systématique. Et c'est là peut-être que nos frères d'Orient peuvent nous aider, c'est qu'ils ont une pratique longue de ce discernement dont nous n'avons pas beaucoup l'expérience et qui est profondément valorisé par le pape François. Donc de ce point de vue-là, nous avons certainement à apprendre, à recevoir. Voilà, il faudrait évidemment connaître avec plus de précision les soubassements théologiques et puis les orientations pastorales des églises orientales pour pouvoir s'en inspirer et puis voir tout simplement dans quelle mesure on peut s'en inspirer. Voilà, je ne sais pas si...
Mais pardonnez-moi la remarque d'un ignorant, mais ces problèmes ne sont pas seulement théologiques, ils sont aussi culturels, non ?
Oui, dans la mesure où la prise en compte de la réalité d'un échec est, à mon avis, tout à fait admise, reconnue dans l'orthodoxie.
Je crois qu'on peut ajouter aussi, d'ailleurs Hélène pourrait en dire plus que moi, la tradition orthodoxe a valorisé davantage la grâce de Dieu qui accompagne le mariage et l'a moins considérée sous une forme juridique comme dans la tradition occidentale. On peut dire qu'il y a des tendances comme ça. Je parle, je suis pas un spécialiste du tout de l'orthodoxie, et ça demanderait certainement beaucoup plus de nuances que ce que je fais, mais voilà, on peut en gros dire, on est dans l'Occident sous l'influence du droit et du droit romain, qui fait du mariage d'abord un contrat. Et ça se sent dans la théologie. C'est vrai que la tradition orientale est davantage théologique de ce point de vue-là. Elle est davantage orientée sur l'importance de la grâce, de la bénédiction donnée par le prêtre à l'occasion de la cérémonie. Et c'est vrai qu'elle peut reconnaître que, dans certains cas, ce lien d'alliance s'est rompu et qu'on pourrait éventuellement envisager, du coup, un deuxième mariage, qui n'est pas d'ailleurs un deuxième sacrement, hein, faut le ouais. préciser, hein, qui est une bénédiction, mais voilà, il y a une espèce de... Il y a une économie, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte de la réalité pastorale sans doute plus forte que dans la tradition occidentale qui s'est figée autour du XIe siècle sur ces sujets, hein. Voilà, justement au moment de la séparation.
Alors l'article...
Alors le canon 915 et 916, alors c'est dommage parce que le canoniste est parti, mais il aurait pu répondre mieux que moi. C'est donc deux canons du droit de canon de 1983. Le canon 915, si je me rappelle bien, dit que considère la dimension subjective. C'est-à-dire, pour accéder à un sacrement, je dois être dans les conditions d'accepter ce sacrement. C'est-à-dire, je ne dois pas être dans un état de péché grave, puisque le péché grave me coupe de l'amour de Dieu. Donc j'ai besoin d'être pardonné de ce péché pour pouvoir accéder à nouveau à l'Eucharistie. Donc ça, c'est le côté subjectif. C'est si moi, j'ai la conscience que j'ai commis un péché grave, je sais pas, j'ai tué ma mère ou que sais-je, ou pire, ou... je dois aller demander le pardon du Seigneur avant de pouvoir communier. Et on comprend ça. Et le commun 916 dit le prêtre... ou celui qui célèbre le sacrement, ne peut pas donner le sacrement s'il a connaissance d'une situation objectivement mauvaise. Voilà. Et c'est le cas, évidemment, des divorcés remariés, qui vivent de manière objectivement irrégulière. Et donc, normalement, le prêtre n'a pas à considérer le fort interne, il ne sait pas ce qui se passe exactement, mais s'il a connaissance de cette situation objectivement mauvaise, il ne peut pas donner le sacrement. Voilà. Bon, ça, c'est, on pourrait dire, la discipline des sacrements qui se comprend théologiquement, je veux dire. C'est ce point que là que le pape François touche, puisqu'il nous dit que l'observation de la situation objective ne suffit plus, d'une certaine façon, à justifier l'interdiction. Et qu'il faut un discernement au fort interne, parce que les responsabilités sont différentes. Et qu'on ne peut pas traiter de la même façon quelqu'un qui a été abandonné par son mari ou sa femme, peut-être battu, peut-être je ne sais pas quoi, et qui a refait sa vie avec un autre homme ou une autre femme, et qui vit une vie chrétienne où elle vit avec des enfants engagés dans l'Église, eh bien cette personne-là, peut-être qu'au bout d'un discernement pastoral, on pourra à nouveau, sans doute, peut-être, je ne sais pas, ça dépendra des cas, accéder au sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie. Vous voyez, c'est ce point-là que le pape touche, c'est-à-dire que l'aspect manifeste, grave et manifeste, c'est-à-dire l'observation extérieure de la situation ne suffit plus. Il faut en fait un examen plus fin au fort interne. Voilà. Et c'est donc en ce sens-là que le canon 915 et 916, je parle avec prudence parce que j'ai pas de canoniste là à mon côté. Vous voyez que le mariage fait appel à toutes les compétences, mais on les a pas toutes. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler en équipe. Mais il me semble que voilà, c'est ça le point important.
Je peux rajouter un mot sur parce que le père Thomaset vient d'employer et il l'avait employé dans son topo, le mot subjectif et objectif. Ce sont des mots techniques. Je l'explique toujours, moi, quand j'interviens, parce que ils n'ont pas le même sens dans le langage courant et dans le langage scientifique de la théologie. Dans le langage courant, quelque chose qui est objectif, c'est quelque chose qui est vrai. Et quelque chose qui est subjectif, c'est quelque chose dont on peut douter de la vérité. Dans le langage théologique, c'est pas ça du tout. Ce qui est objectif, on considère l'objet de l'acte. Ce qui est subjectif, on est du côté du sujet, de la personne. Voilà. Je vois des grands regards. Donc je crois que c'est important de bien comprendre ça. Donc, nous articulons toujours, justement, le subjectif et l'objectif. L'objectif ne suffit pas. Le subjectif ne suffit pas non plus. Mais le subjectif, dans le langage technique et scientifique, n'est pas, n'a pas une valeur moindre que l'objectif. On ne se situe pas sur le même plan. Donc tout le travail d'accompagnement tel qu'il commence à être proposé dans les diocèses par des documents assez formalisés, c'est justement dans le temps du travail au fort interne, c'est-à-dire dans le dialogue à l'intime avec quelqu'un, si vous voulez, de pouvoir aller justement aussi sur la dimension subjective, ne pas se contenter de la dimension objective.
Oui, je rajoute, c'est très important ce que vient de dire Oran de Motor, parce que je dirais que ce soit en sacramentaire ou en théologie morale, il faut toujours tenir, comme disait le père Cesboué, tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire, on marche toujours sur deux pieds dans la théologie catholique. Il y a le côté des normes, et puis il y a le côté de la situation. Il faut prendre en compte les deux pour faire une évaluation. La loi, dans son objectivité, qui se veut universelle, et c'est bon qu'on ait des repères comme ça, universels, qui sont valables pour tous, ça ne suffit pas à évaluer une situation donnée. Il faut encore prendre en compte la situation singulière, l'histoire, les circonstances. C'est de la théologie morale traditionnelle. On avait peut-être un peu oublié ça de temps en temps. C'est pour ça que je dis que voilà, l'enseignement de Jean-Paul II, l'enseignement du pape François, ça va ensemble parce que justement, du coup, on marche à nouveau sur deux pieds.
On prend une autre série de questions.
Tout est résolu, ça m'étonnerait.
Moi, j'aurais aimé savoir quelle perspective pour les 2 ans à venir maintenant.
De belles perspectives.
Oui. Une autre question. Jean-Yves Le Prieur encore. Ouais.
Je pose une autre question parce que je vois qu'il n'y en a pas trop, donc voilà, je n'abuse pas de la parole. J'ai été effectivement, comme vous, frappé par le chiffre des 40%, Madame de Motor, que vous avez cité, là. 40% donc du baisse du nombre des mariages religieux en 10 ans, je n'avais pas pris la mesure du phénomène. Est-ce que vous pensez que, disons, l'exigence traditionnelle de l'Église concernant le mariage religieux et l'enseignement, je dirais, d'avant à Maurice Laetitia, entre pour une part dans cette dissuasion des couples à se marier?
Peut-être aussi la diminution globale du nombre des mariages.
Une question encore, oui.
Moi, je voulais savoir ce qui se faisait plus précisément dans la pastorale d'accompagnement des personnes homosexuelles et s'il s'agit d'accompagnement de ces personnes ou de leurs familles. Et je voulais savoir aussi le lien entre cette pastorale et des réflexions peut-être d'ordre théologique sur la question.
Alors, tout ça nous permettra peut-être de déboucher ensuite sur la réponse à votre question sur les 2 ans. Les 2 ans à venir, nous commençons par la demande.
Alors, sur les mariages, la baisse du nombre de mariages, et puis je donnerai la parole à Hélène aussi, passerai la parole à Hélène. Le chiffre des 40%, on peut le mettre en perspective avec l'évolution du nombre de mariages civils sur la même période. Il y a 17% de baisse. Donc, la pente est beaucoup plus importante, effectivement, pour les mariages religieux. Voilà. Donc bon, là c'est de l'ordre du constat. L'analyse, c'est multifactoriel. Hein. Il est certain qu'un certain nombre d'équipes de préparation au mariage ont pu se sentir, consciemment ou non, responsables des divorces. Avec cette idée qui me paraît un peu fausse, il faut vraiment bien préparer les mariages pour qu'il n'y ait pas de divorce après. Alors, je pense qu'il faut bien préparer les mariages, oui. Le temps de la préparation au mariage, c'est important. Mais la responsabilité des échecs du mariage n'est quand même pas directement liée à l'échec de la préparation au mariage, surtout qu'on a tous en tête des expériences personnelles ou proches de mariages très mal préparés, qui s'avèrent des mariages après avec une belle dynamique. Donc, devant cette crainte, depuis, et puis devant le constat de perte de culture religieuse contemporaine, hein, certains lieux, certaines équipes ont commencé à faire un peu d'enseignement sur voilà, la foi, ce en quoi nous croyons. Les couples étaient là, alors ben on en profitait d'une certaine manière. Alors, c'est bien d'avoir de la culture religieuse, bien sûr, mais ce n'est pas forcément ça qui soutient les couples dans leur mariage. Et quelquefois, c'est apparu comme très exigeant. Et c'est vrai que moi, j'ai des retours de terrain, de ici ou là, certaines paroisses, où ben c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir rentrer dans un processus de préparation au mariage. Quelquefois, il faut d'abord répondre à un questionnaire sur le net. Alors, ça décourage un certain nombre de couples. Dans d'autres cas, quand on vit ensemble, on n'est pas persona grata. C'est pas vrai partout, hein, mais ça arrive aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de lieux où on n'encourage pas au mariage. Voilà, je suis un peu triste de le dire. Parce que je pense que c'est malheureux, mais je crois qu'il faut pouvoir le reconnaître. Parce que notre responsabilité, vraiment, je le pense, c'est d'encourager au mariage. Voilà.
Alors, pour compléter peut-être sous un autre point de vue, je pense qu'il y a quand même un facteur culturel qui joue de manière assez considérable. Pour prendre un peu une situation un peu parallèle, le diocèse de Gand, voilà, c'est pas tout près, mais c'est pas non plus l'autre bout du monde, m'a fait remarquer il y a 2 ans à peu près que le pourcentage de mariages, y compris civils, hein, sur l'ensemble des mariages, c'était 8%. Donc 8% des couples étaient mariés.
Oui.
Donc oui.
Oui, mais pas en France. Hein.
Donc c'est à Gand, en Belgique. Voilà.
Oui.
En Belgique flamande, s'il faut tout préciser. Et la raison qui était donnée, c'est que, en fait, les personnes, y compris en milieu chrétien, se disaient que elles ne pouvaient pas, en toute conscience, s'engager pour une durée illimitée, mais qui a priori est très longue. Hein, c'est au moins un demi-siècle. Hein, faut reconnaître que c'est long. Mais elles ne pouvaient pas garantir qu'elle serait toujours capable, et elle ne pouvait pas non plus garantir que l'autre serait capable de tenir la fidélité. Et que devant cette incapacité à garantir, eh bien, il était préférable de ne pas s'engager. Ça, c'est une question de mentalité. C'est pas une question ni de foi, ni de culture religieuse. C'est vraiment une question d'ordre culturel plus largement. Hein, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect de l'engagement, hein, pour lequel l'engagement à vie aujourd'hui, eh bien, on n'a aucun lieu où on peut l'apprendre. On peut changer de voiture, de maison, de nationalité, de travail. Quel est le lieu où on peut apprendre l'engagement à vie pour toujours avec une autre personne, même choisie à un moment donné? Donc c'est vraiment un problème, je dirais, de culture aussi.
J'ajouterais les conditions sociales et économiques aussi, hein. C'est-à-dire, c'est ce que dit le pape François dans le chapitre 2, d'ailleurs, d'Amoris Laetitia, qui est un chapitre assez réaliste, qui fait un peu le point sur aussi toutes les chances, les désirs de famille, comme il dit, qui est fort, mais aussi toutes les contraintes et les obstacles au mariage aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je vous prends seulement un seul exemple. Moi, j'habite Saint-Denis, c'est des gens relativement modestes et pauvres. Un des obstacles au mariage, c'est l'argent. Parce que pour se marier, il faut faire une grande fête pour les copains. Sinon, ça marche pas. Et on n'a pas l'argent pour faire la grande fête. Ou on n'a pas l'appartement, on n'a pas la salle, etc. Et c'est des choses bêtes, hein, mais j'en connais plusieurs, des couples comme ça, qui seraient bien contents de se marier, d'ailleurs. Eux, ça leur pose pas de problème, mais qui n'ont pas les moyens. Bon, c'est un des éléments. Hein. Alors, il n'y a pas uniquement ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a aussi un certain nombre de contraintes de l'environnement social, politique, économique, qui font que le mariage n'est pas très favorisé, d'une certaine façon.
Alors, en France, on n'est pas comme à Gand.
Oui.
Les 3/4 des couples sont des couples mariés civilement en France. Voilà. Alors, bien sûr, suivant les tranches d'âge et avec le fait qu'on se marie plus tard, ça va sans doute baisser, mais c'est quand même un chiffre important. Les trois quarts des couples sont des couples mariés. Et j'ajoute, parce que je sais que ce chiffre frappe toujours, les trois quarts des mineurs, des enfants mineurs, donc des moins de 18 ans, vivent avec leurs deux parents qui vivent ensemble. Toutes les familles ne sont pas des familles éclatées. Voilà, les trois quarts des mineurs vivent avec leurs deux parents qui vivent ensemble. Les parents ne sont pas forcément mariés, mais voilà, c'est une famille stable, etc. Bon, ça c'est une petite incise pour décrire un peu notre panorama.
Sur les homosexuels. Alors, il y a une question sur les
homosexuels. Ah oui,
je pense que Oran peut mieux
alors,
répondre.
Oui, il y a à peu près 40 diocèses qui ont mis en place des propositions. En France, il y a une centaine de diocèses. Hein. Je ne sais plus qui a posé la question, parce que je veux bien regarder. Ah, voilà, c'est plus agréable. Il y a à peu près il y a une quarantaine de diocèses qui ont mis des propositions plus ou moins structurées, plus ou moins régulières. Et je peux dire qu'il y a 5 ans, à peu près, il y en avait une dizaine. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que c'est un vrai travail de fond qui se fait sans trop de bruit, mais il se passe des choses sur le terrain. Alors les propositions, c'est à la fois pour des personnes homosexuelles ou pour les familles, parce qu'il faut bien voir quand même que pour les parents, c'est pas toujours facile d'apprendre que leur fils, leur fille est homosexuel, et donc il y a aussi des groupes de parole, des groupes d'amitié. J'évoquais tout à l'heure certaines initiatives, j'y reviens. Je cite par exemple les parcours, je ne sais plus comment ça s'appelle, Parler la différence ou Parlons de la différence, qui ont démarré à Poitiers. Je le décris rapidement. C'est 4 soirées. La première soirée, on regarde un film. C'est un film, je crois que le titre c'est Le ciel sur la tête, il me semble. Enfin, c'est des parents qui découvrent l'homosexualité de leur fils ou de leur fille, je sais plus, leur fils, je crois. Voilà, les gens regardent le film et il n'y a pas de débat. La deuxième rencontre, une semaine après ou 15 jours après, c'est une soirée animée où on va pouvoir dialoguer à partir du film, comment on a réagi, comment on a compris, etc. Troisième soirée, c'est un peu ben, l'Église. Comment est-ce qu'elle considère les questions d'homosexualité? Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle dit? Et l'Écriture, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Et quatrième soirée, ben, mais nous, comment est-ce qu'on va vivre sur le terrain, proposer, accueillir? Voilà. Ce parcours-là, il a été proposé déjà dans pas mal de diocèses. À chaque fois, il y a 80 personnes, 100 personnes. Et ça se passe très bien. Je le dis parce que on pourrait se dire, mais ouh, il n'y a pas des réactions un peu hostiles, etc. Eh bien, en fait, non, parce que c'est un lent mouvement de mise en route, d'écoute, de dialogue. Et donc, ça se passe bien. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant de voir que dans notre Église catholique en France, on est capable de proposer sur des sujets qui sont délicats, il faut bien le reconnaître, sur des sujets qui sont même douloureux parfois, on est capable de cheminer pas à pas, ensemble. Et je crois qu'Amoris Laetitia nous y aide. Voilà.
Oui, j'allais dire, c'est un petit peu comme la question des divorcés remariés. Il y a dans beaucoup de diocèses, il y a eu des groupes de partage de paroles pour les divorcés remariés depuis des années et des années. Et en fait, ça a favorisé ce qu'on voit aujourd'hui apparaître dans les diocèses quand il y a des pistes pastorales d'accompagnement de ces couples, parce qu'ils sont déjà en route. Donc il y a tout un travail, je pense, aussi, qui est en train de naître et de se développer sur l'accompagnement pastoral des personnes homosexuelles ou de leurs familles, qui va donner des fruits, j'allais dire, sur notre manière de les accueillir en Église, peut-être aussi de réfléchir théologiquement sur leur situation. Parce que voilà, on voit l'impact là du travail, je dirais, silencieux, souterrain de la pastorale sur notre vie ecclésiale. Donc, d'une certaine façon, il y a une confiance à faire dans l'Esprit Saint à l'œuvre, comme vous dites, petit à petit, dans des endroits très variés en France. Voilà. Je donne un autre exemple, peut-être, sur la question de la pastorale des personnes homosexuelles. Je sais qu'à Tours, par exemple, ils ont des rencontres personnes à orientation homosexuelle et personnes à orientation hétérosexuelle. Simplement pour se connaître, pour discuter ensemble, ils ont aussi des soirées comme ça qui existent. Vous avez le mouvement du HEC, entre autres, devenir un en Christ, qui accompagnent les personnes concernées par l'homosexualité, que ce soit eux-mêmes ou leur famille, ou les parents, ou parfois des couples. Parce que vous savez aussi, vous avez aussi des gens qui découvrent leur homosexualité alors qu'ils sont mariés depuis 20 ans. C'est dramatique parfois. C'est des situations très, très, très douloureuses. Et ils accompagnent ces couples-là aussi. Donc il y a vraiment une grande variété.
Alors du coup, pour la perspective des 2 ans,
voilà.
Moi, il me semble que ce que permet vraiment à Maurice Laetitia, c'est et c'est ce que le texte dit, c'est de tenir à la fois que la vie familiale, vécue dans la stabilité, dans la fidélité, dans un mariage qui dure, c'est un chemin de bonheur, et qu'en même temps, d'autres personnes vivent des situations différentes, et qu'elles ont toute leur place en Église, et que si elles ne sont pas dans nos communautés, elles nous manquent. Voilà. Nous nous privons de quelque chose quand nous ne faisons pas place dans nos communautés à des situations de fragilité diverses. Et mon souhait, c'est de pouvoir, en même temps, pour prendre un mot connu, puisse continuer à se vivre, se déployer, parce que je pense que, je constate que dans les formations que j'assure sur le terrain, que en fait ça encourage, ça stimule et ça libère des énergies pastorales. Ça permet d'accompagner en disant que c'est juste d'accompagner.
Merci beaucoup, mais je pense que ce propos peut être la conclusion de notre rencontre de ce soir. Merci d'être venu, merci pour votre attention. Alors, un petit mot d'annonce pour le prochain mardi d'éthique publique. Il aura lieu le mardi 5 juin. Il sera consacré au baccalauréat. Et pour débattre du nouveau baccalauréat, nous aurons avec nous Claude Tello, qui est un habitué des lieux, et Pierre Mathieu. Pierre Mathieu, c'est l'ancien directeur de Sciences Po Lille qui a été chargé par le ministre Blanquer de faire la réforme du baccalauréat. Donc nous aurons le témoignage direct de celui qui est l'auteur de cette réforme du baccalauréat. Et vous pourrez en débattre avec lui. Le baccalauréat aura bien lieu. Voilà. Et je vous rappelle aussi que vous trouverez des flyers à la sortie de présentation de l'ouvrage « La joie de l'amour » publié chez Lessius. Et l'ouvrage lui-même. Voilà. Donc vous pourrez vous les procurer. Voilà. Merci beaucoup.